Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 108, Daf Kuf Het. Bonne écoute et bon limoud.
Pour ne pas qu'une bête sauvage puisse sauter au-dessus de la clôture. Et c'est pour cela qu'il faut ces deux fossés qui iront sur toute la longueur du champ. Il y aura tout d'abord proche de la clôture un fossé profond mais étroit d'une largeur de 3 tfachim. C'est le petit fossé. Puis derrière lui, il y aura un autre fossé profond mais plus large d'une largeur de 6 tfachim. Alors la Gemara demande, Veliavid Haritz, Veloleavid Ben Haritz. Il n'a qu'à faire uniquement le grand fossé et il n'aura pas besoin de faire le petit fossé. Pourquoi a-t-on besoin donc de deux fossés? La Gemara répond, Aide de Ravach, puisque ce fossé est large, Kaima Begave, cette bête sauvage, par exemple une belette ou une fouine, peut se tasser à l'intérieur de ce fossé, Vekartza, et ainsi sauter par-dessus la clôture. La Gemara demande, Veliavid Ben Haritz, Veloleavid Haritz. Cette personne n'a qu'à faire un petit fossé, donc étroit. Il n'aura pas besoin de faire le grand fossé. La Gemara répond, Aïdé de Katine, puisque ce fossé est étroit, Kaima Asfate, cette bête sauvage peut se tenir à la bordure de ce fossé, Vekafza, et ainsi sauter par-dessus la clôture. Il faudra donc tout d'abord un grand fossé, puis après un petit fossé, pour empêcher une fouine de sauter par-dessus la clôture. La Gemara demande, Vekama Ben Haritz, les Ben Haritz, quel espace doit-il avoir entre le grand fossé et le petit fossé? La Gemara répond, Tefar, il faudra laisser un espace d'un Tefar entre ces deux fossés. Hadran Alach Betkour, nous avons terminé ici l'étude du 7e Perek de Baba Batra. Nous avons fini aussi le Shiur de Baba Batra d'Afkouf Zayn.
Nous avons commencé la lecture rapide du 8e Perek de la Gemara Baba Batra, en espérant que cela puisse nous servir, Bazat Hashem, pour une étude futur, plus approfondi. Lecture effectuée par Eliyahu Seba. La Mishnah commence ainsi, Daf Kuf Het Amud Alef. Yesh Nohalim Uman Hilim. Il y en a qui héritent et qui font hériter. Yesh Nohalim Velo Man Hilim. Il y en a qui héritent, mais qui ne font pas hériter. Man Hilim Velo Nohalim. Au contraire, il y en a qui font hériter, mais qui n'hérite pas. Et enfin, lo nohalim velo manchalim, il y en a qui ni ils héritent, ni ils font hériter. Velu nohalim ou manchalim. Voici ceux qui héritent et qui font hériter. Ha'avet habanim, le père, vis-à-vis de ses enfants. Il hérite de ses enfants lorsque il meurt avant lui. Et il fait hériter à ses enfants lorsque le père meurt avant eux. Rabbanim est un av. Les enfants, vis-à-vis du père, également, ils héritent et ils font hériter. Bahachin, mina av. Les frères qui ont un père en commun. Nohalin ou manchilin, également, ils héritent et ils font hériter à leurs frères. Ce qui n'est pas le cas des frères qui ont une mère commune, mais qui n'ont pas le même père, comme on va le voir dans le chute de la Mishnah. Maintenant, la deuxième catégorie. Ha'ish et immo, l'homme vis-à-vis de sa mère, il hérite, mais il ne lui fait pas hériter. Ha'ish et ishto, l'homme vis-à-vis de sa femme, il en hérite, mais il ne lui fait pas hériter. Vous venez à Hayot, les enfants des sœurs, comme par exemple les enfants de Dina, la sœur de Reuven, Nohalin, Velomanhalin. Ils héritent de leur oncle Reuven, puisque leur mère Dina, elle-même, elle hérite de son frère Reuven. Et donc, à la mort de Reuven, si Dina, sa sœur, n'est plus vivante, ce sont les enfants de Dina, c'est-à-dire les neveux de Reuven, qui vont hériter. Mais ces neveux, ils ne font pas hériter à leur oncle, parce que le lien qu'ils ont avec leur oncle, bien sûr, c'est leur mère, Dina, et comme la mère n'hérite pas des enfants, par conséquent, son frère Reuven ne pourra pas hériter de ses neveux. La Mishnah poursuit. Aïcha et Banéha, la femme vis-à-vis de ses enfants, elle leur fait hériter, mais elle n'en hérite pas. De même, Aïcha et Baala, la femme vis-à-vis de son mari, elle lui fait hériter, mais elle n'en hérite pas. Également, Ahéhaem, les frères de la mère, c'est-à-dire les oncles maternels par rapport à leurs neveux, par exemple, Reuven, qui est le frère de Dina, et donc qui est l'oncle des enfants de Dina, il leur fait hériter, puisque Dina hérite de son frère Reuven, donc après les enfants ils héritent de leur mère, mais par contre, cet oncle-là, il ne peut pas hériter de ses neveux, puisque sa sœur, la mère de ses neveux, elle n'hérite pas de ses enfants. Enfin, la quatrième catégorie, Ha'achin min ha'em, des demi-frères par la mère, lo nohalin v'lo mahalin, ni ils héritent l'un de l'autre, et ni, par conséquent, ils le font hériter l'un à l'autre. On nous a classé dans cette Mishnah les différents héritiers par catégorie, ceux qui héritent et qui font hériter, ceux qui héritent et qui ne font pas hériter, ceux qui font hériter mais qui n'héritent pas, enfin, ceux qui n'héritent pas et qui ne font pas hériter, mais on n'a pas encore abordé l'ordre de préséance de ces héritiers. L'ordre des ayants droit à l'héritage nous sera précisé dans une prochaine Mishnah. D'autre part, vous avez pu noter que certains des héritiers ils sont mentionnés deux fois, comme par exemple le père, pour les enfants, il en hérite et il les fait hériter. Donc ça implique obligatoirement que les enfants, ils héritent, ils font hériter au père. Et donc pourquoi est-ce que la Mishnah, elle le cite deux fois, père pour les enfants et l'enfant pour le père. Et comme ça, plusieurs cas de la Mishnah ont l'air de faire double emploi, et la Gemara, pour certains cas, et les Rishonim, pour d'autres cas, s'emploient à expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont été répétés. La Gemara. Maïshena de Katani ha'ave et habanim beresha. Pourquoi est-ce que l'auteur de la Mishnah, il enseigne le cas où le père, il hérite des enfants, il leur fait hériter en premier. L'itne habanim et habarisha, il aurait dû enseigner en premier plutôt le cas où les enfants, ils héritent de leur père et ils font hériter à leur père. Chada, d'abord, d'atroulé bepouantalo matrinan, parce que ça ne se fait pas de commencer par un cas qui représente en fait un malheur, que le père il hérite de ses enfants, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, il aurait mieux valu enseigner le cas où les enfants, ils héritent du père.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Koufret Amoud Bet.
On tourne maintenant la page. On reprend au Vod. Et en plus, que dire-t-il ? Ish ki amut ou ben eno. Dans la Torah, le premier cas dont on parle pour hériter, c'est le fils. Lorsque un homme mourra et qu'il n'a pas de fils, parce que s'il a un fils, il hériterait, alors, avartem et nahato vito, dit la Torah, qu'on fera passer l'héritage à la fille. Si le cas cité en premier dans la Torah, c'est le cas du fils qui hérite du père, le Tana de la Mishnah, il aurait dû faire la même chose. La Gemara répond, le Tana, l'auteur de notre Mishnah, a dit d'atile midrasha, puisque le cas du père qui hérite du fils, il n'est pas explicite dans la Torah, mais on l'apprend d'une déduction savante, Rabbi Valé, c'est pour ça que cet enseignement-là, il a eu sa préférence, pour le Tana et il l'a enseigné en premier. La Gemara poursuit Maïdracha. Alors d'où est-ce qu'on apprend justement que le père il hérite du fils? Netanya. Ainsi qu'on voit dans la Braïta, She'ero ze ha'av. Tout à la fin de l'exposé des héritiers dans la Torah, nous dit Undatem et nachalto lish'ero akaovela mishparto. Vous donnerez l'héritage au parti le plus proche de sa famille. Shéro, le parti, de quoi il s'agit? Du père. Comment je sais que Shéro, ça désigne le père? Parce que, autre part, dans la Torah, lorsqu'on parle des incestes, on décrit l'interdiction de se marier avec la tante, la sœur du père, dans ces termes. Ne te marie pas avec la tante, la sœur du père. She'er avicha hi. C'est une partie de ton père. On voit donc qu'on utilise le terme she'er au sujet du père. La Braïta poursuit en disant Lamed she'ahav kodem le'achim. Maintenant qu'on a établi que she'er c'est le père, on peut passer au deuxième enseignement du Passouk, c'est-à-dire la place du père dans l'ordre des héritiers. Melamed, de ce même cas de Passouk, on peut apprendre que le père a Av Kodem le Ahim. Il passe avant les frères du défunt. Comment je vois ça du Passouk, puisque en fait Shehero il écrit tout à la fin de l'ordre des héritiers. La Gemara va expliquer plus tard que on tient ce renseignement-là du fait que la Torah parle de Karov. Undatem et nahato lishero hakarov elav mimishparto. Pourquoi parler de karov? On aurait pu écrire undatem et nahato lishero mimishparto. Simplement. Et le fait que la Torah ait ajouté le mot karov, ça veut dire que elle nous dit, faites attention à replacer le père karov à l'endroit de proximité qui lui revient. Et voilà comment il faudrait traduire le pasouk alors. Undatem et nahalato, vous donnerez l'héritage lishero au parti, le père, hakarov et lav, conformément à l'ordre de priorité qui lui convient. Et en raisonnant correctement, on va replacer le père à quel endroit? Après le fils du défunt et avant le frère du défunt. La Braïta poursuit, elle dit Yachol yehe kodem le ben. Peut-être tu vas être tenté de passer le père même avant le fils du défunt, puisque entre le fils du défunt et le père du défunt, on peut avoir un penchant pour privilégier le père. La Braïta poursuit, elle dit non. On ne va pas faire passer le père avant le fils, parce que la Torah dit, Talmud Lomar, Hakarov, Karov Kodem. Le hé de Hakarov, il est superflu. Il vient nous enseigner qu'il y a un proche, le hé Hakarov, qui est le proche par excellence. Quel est-il? C'est le fils. Le proche, ce proche, dont on parle dans la Torah, qui a des liens privilégiés qu'aucun autre proche a vis-à-vis du défunt. Et en quoi on peut voir que le fils du défunt, il est le proche privilégié du défunt dans la Torah? C'est parce que le fils y remplace son père dans au moins deux circonstances. D'une part, dans le domaine du Yihoud, lorsque le père il a pris en charge une jeune fille qui a la possibilité d'épouser, si le père ne tient pas à l'épouser, le fils il peut prendre sa place et épouser cette Ama Ivria. D'autre part, concernant le rachat du champ que le père il était Magdish, qu'il a offert au Hekdesh, que si c'est une tierce personne qui rachète le champ du Hekdesh, arrivé au Yovel, le champ retournera au Hekdesh et deviendra la propriété des Kohanim. Par contre, si c'est le père ou son remplaçant, le fils, qui rachète ce champ du Hekdesh, le champ restera dans le patrimoine familial. Et donc, puisque pour ces deux cas, le fils, il est le digne remplaçant de son père, ça veut dire que dans l'esprit de la Torah, le remplaçant privilégié d'une personne, c'est son fils et personne d'autre. Et donc, pour la Yerusha également, pour l'héritage, ce sera le fils qu'on considérera comme Hakarov, le plus proche. La Braïta poursuit, elle dit Umar Aïta le Rabot et Haben. Pourquoi est-ce que, avec le He du Hakarov, tu veux inclure le fils comme étant le proche par excellence? Ulhotsi et Ha'ar, et donc tu exclus la possibilité que ce soit le frère. La Baraita, elle s'explique, elle dit, oui, Marbeani et Aben, j'inclus dans ce rôle le fils. Cheken Kam Tahatadiv, le Yada, Usade Ahuza, puisque le fils, par ailleurs, il est le remplaçant désigné de son père dans au moins deux autres domaines dans la Torah, pour le Yehoud et pour le Sadeh Ahuza, pour le chant qu'on a des Magdish. Alors, la Braïta, elle revient à la charge, dit Adéraba, mais au contraire, on a une bonne raison de penser d'inclure Marbe Ani et Ha'ar, le frère du défunt. Pourquoi? Sheken Kam Tahat Ahiv le Yiboum. Parce que le frère, c'est le seul remplaçant que la Torah a investi pour représenter son frère défunt qui est mort sans enfant, pour lui donner une descendance posthume avec la veuve de son frère défunt. C'est donc logique de penser que dans l'esprit de la Torah, le vrai successeur privilégié d'un homme, c'est son frère, également au niveau de la Yerusha. L'auteur de la Braïta, maintenant, il refute cette possibilité et dit non, finalement, l'avantage présumé du frère sur les autres proches que constitue le hiboum, en fait, ça n'est pas un avantage. En comparaison, au regard du fils du défunt. Pourquoi? Parce que Kloum Yesh Yiboum et l'abimkom chez En Ben. Parce que tout la mitzvah du Yiboum n'existe que lorsqu'il n'y a pas de fils. Donc, lorsqu'il y a un fils, on n'a pas besoin de faire appel au frère. Et donc, c'est bien un second rôle que celui du Yiboum. Ça vient pallier à l'absence de fils. On ne peut donc pas considérer que la mitzvah de Yiboum pour le frère est un signe de proximité particulière vis-à-vis du défunt. Maintenant que on a terminé la braïta, la Gemara demande sur cette braïta, Tama Deika Haipircha, la raison pour laquelle on n'a pas fait passer le frère en premier, c'est parce qu'on avait la refutation concernant l'Iboum. Ah, la vari. Mais s'il n'y avait pas cette refutation, Hava Amina, alors j'aurais dit que, ah, Adif, le frère est mieux placé pour prendre l'héritage que le fils du défunt, grâce à la mitzvah Iboum, s'il n'y avait l'objection. Et pourtant, la mitzvah Iboum ne représente qu'une circonstance où le frère y remplace le défunt. Alors que, Tiboukle, on peut déduire que...
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.